Et on parle toujours législative ce matin dans le 8h30 avec l'invité de la rédaction, c'est Pascal Recotillet. Bonjour.
Alors bonjour à vous, bonjour à toutes vos auditrices et vos auditeurs.
Vous êtes candidat pour la première circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, candidat régionaliste pour la liste Oui la Provence, Région et Peuple solidaire. Vous aviez été tête de liste Oui la Provence pour les régionales, tête de liste dans le 04. Et à l'époque, vous n'aviez totalisé que 3,6% dans les Alpes-de-Provence. Vous dites quoi, totaliser que ou c'est déjà pas mal?
Alors, effectivement, j'étais chef de file pour le département 04 l'année dernière aux élections régionales. Le chiffre que vous donnez est une moyenne sur le département. Mmh. Je voudrais dire quand même que sur la première circonscription, on est à 5,1% au régional. Et c'était un score absolument plus qu'encourageant puisque les sondeurs nous donnaient la veille encore à 0,5%.
Donc il y a eu une percée. En effet, il y a une percée entre les sondages et la réalité des voix. Alors, pour les régionales, qu'un parti régionaliste fasse des votes dans les suffrages, ça peut sembler normal, mais par contre, pour la députation, quelle est la place d'un régionaliste, puisque c'est un mandat qui est national, il est destiné à faire remonter les problèmes des territoires au gouvernement pour qu'il y ait ensuite des lois?
Absolument. Donc les différents partis que vous appelez régionalistes, mais qui sont souvent plutôt autonomistes, sont rassemblés dans une fédération qui s'appelle Région et Peuple solidaire, qui est présente sur tout l'Hexagone. Aux législatives, nous présentons, j'ai pas le chiffre exact, mais bon, une centaine de candidats sur tout l'Hexagone pour faire valoir des idées qui sont pas propres à une région donnée.
Ça veut dire que vous savez très bien que vous n'aurez jamais la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut 280 députés. Vous n'aurez pas la majorité absolue, donc l'objectif, c'est quoi?
Alors, évidemment, on n'aura pas la majorité absolue, même si on était tous élus. Mais l'objectif politicien, en l'occurrence, c'est de pouvoir peser et empêcher le président actuel d'avoir une majorité absolue, par exemple. À l'Assemblée nationale.
Et vous le disiez, hein, vous êtes donc oui, la Provence, Région et Peuple solidaire qui a des représentants nationaux. On va revenir là-dessus, bien sûr, mais vous voulez plus d'autonomie pour les régions. Est-ce que autonomie, ça veut dire aussi indépendance?
Mais non, ce sont deux concepts absolument différents. Hein. Nous ne sommes absolument pas indépendantistes, on est même contre l'indépendantisme. Nous, on réclame simplement que les gens puissent décider à leur niveau, chez eux, pour ce qui les concerne. En particulier, au niveau régional, il me semble que le minimum, c'est que l'on puisse décider de questions liées à l'aménagement du territoire, à la culture et au tourisme, par exemple. Ce sont des compétences que une région devrait avoir. Et pour qu'elle les ait, il faut qu'elle ait des moyens légaux et il faut qu'elle ait des moyens fiscaux. C'est ce qu'on appelle l'autonomie.
Pour vous, le bon échelon, j'allais dire local, c'est la région.
Le bon échelon, l'échelon pertinent et efficace, c'est la région. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe dans la grande majorité des démocraties européennes.
Alors, ça veut dire quoi, justement? Est-ce que ça veut dire adopter le système fédéral qu'on trouve et qu'on connaît plus particulièrement aux États-Unis, c'est-à-dire que le gouvernement décide de la politique étrangère, du budget, de la politique de défense, et le reste est débattu entre chaque État?
Alors, il y aurait un système à inventer, hein, bien sûr. On serait plutôt plus proche d'un modèle allemand qu'un modèle états-unien.
Donc des Länder.
Mais plutôt quelque chose comme ça. Mais effectivement, l'État doit garder des prérogatives en matière de discussions commerciales internationales, en matière de défense, des choses comme ça. Nous, on est pour le principe de ce qu'on appelle de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on décide à un échelon donné ce qui est valable à un échelon donné, et que ce qui relève de l'échelon supérieur soit traité par l'échelon supérieur.
Alors, vous regrettez la centralisation du pouvoir lors de la crise Covid. Selon vous, qui aurait dû gérer cette crise sanitaire?
Bon, je pense là-dessus, il faut être prudent là-dessus, il n'y a pas de vérité absolue, on voit un petit peu que les différents traitements selon les systèmes politiques des différents pays européens ont conduit à des résultats peu ou prou équivalents. Hein. Donc je ne suis pas certain que la gestion de la crise Covid soit la plus pertinente, bien que, après coup, on se rend compte que certaines mesures différenciée aurait sans doute été plus efficace que des mesures assénées brutalement depuis Paris partout. Par exemple, dans nos zones rurales, personne n'a compris que quelqu'un qui se promène dans la colline avec personne à 10 km à côté qui sont poursuivis par un hélicoptère, quoi. Ça, on a du mal à le comprendre. Voilà.
Alors, oui, la Provence et surtout Région et Peuple Solidaire, vous le disiez, hein, ce groupe. Au Parlement européen, RPS dispose d'un eurodéputé, c'est François Alfonsi, qui a notamment écrit le rapport sur les langues menacées de disparition et la diversité linguistique. Au sein de l'Assemblée nationale aussi, il y a des députés hein, qui ont déposé certaines propositions, notamment la défense des langues dites régionales, c'est la proposition de loi Molac. Et c'est vrai que quand j'ai posé la question, à la fois au sein d'Alpe 1 et puis également dans les rues, pour vous, le parti régionaliste, c'est quoi? On m'a répondu, en grande majorité, c'est la défense des langues régionales. C'est un carcan encore qui vous enferme.
Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que ça nous enferme?
Oui, c'est un carcan. Oui, ça vous enferme vraiment dans la représentation. On vous voit comme un parti qui défend les langues régionales et pas comme un parti qui peut défendre la population.
Alors, c'est une image qui doit évoluer. On compte un petit peu aussi sur les médias pour pouvoir faire passer un message un petit peu plus complet. La défense des langues autochtones dites régionales par l'État est un volet important, mais évidemment, ce n'est pas ça qui fait une politique complète. Et nous avons un projet cohérent et complet.
Et on va en parler de votre projet. On va en parler, mais quelle serait la place de la France? Quelle est, selon vous, plutôt la place de la France en Europe, vu que vous avez un projet qui est régionaliste?
Alors, on a aussi des visées au niveau européen. C'est-à-dire que nous, ce que l'on souhaite à terme, c'est une évolution, une transformation de l'Europe pour passer d'une Europe des États à une Europe des régions. Par exemple, nous ici en Occitanie, on est très 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 bien placé pour ça, puisqu'on a une très grande aire culturelle qui s'étend sur 3 États actuellement. Et on a beaucoup de difficultés, nous, à parler ou à mettre en place des projets avec le Piémont, qui est une partie culturelle commune, ou avec la Catalogne de l'autre côté, qui est une partie culturelle commune exactement. Aujourd'hui, les régions devraient pouvoir être entendues directement au niveau européen sur certains sujets.
Alors, parlons du projet, justement. Sur la première circonscription des Alpes de Provence, on parle beaucoup de transport, on parle beaucoup de désenclavement. Hier, le candidat du Rassemblement national, Christian Girard, a proposé de relancer cette idée du tunnel sous le Mont Genèvre. Vous, quelle est votre réponse face à ce besoin de désenclavement?
Alors là, on est complètement à l'opposé de ces choses-là. Alors, Les tunnels, ça fait partie de ce que les associations appellent les grands projets inutiles. Il y en a un autre qui est bien plus puissant et bien plus avancé que celui-là, c'est la ligne LGV qui va défigurer la Provence et qui arrivera à un bilan carbone équilibré dans 30 ans, c'est-à-dire quand il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard et qui va nous coûter une fortune, y compris aux citoyens de la région. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on dépense des milliards, alors au niveau de la région, je crois, de mémoire, je crois que c'est 3 milliards, pendant qu'on dépense cet argent-là, on ne le dépense pas dans les transports de proximité. Ce qui est important aujourd'hui, pour ce qui concerne notre région, mais ça vaut pour d'autres régions, c'est de développer et d'assurer les transports de proximité, c'est-à-dire remettre en route les petites lignes, les entretenir. Et ce qui compte, c'est les habitants du pays. C'est pas te faire gagner un quart d'heure à des Parisiens pour qu'ils viennent se faire bronzer sur la côte.
La santé, voilà. Il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Dans les Alpes d'Haute-Provence, on a parlé des urgences de Sisteron. On parle actuellement des urgences de Manosque. Il y a aussi des inquiétudes du côté de Digne-les-Bains. Certains disaient, arrêtons de trop vouloir regrouper. On pourrait être happé par Aix-en-Provence. Santé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez face aux inquiétudes de la population?
Bon, alors aujourd'hui, dans le domaine de la santé, je pense qu'on devrait prendre au niveau politique des décisions volontaristes, parce qu'il y a une période de quelques années, là, suite à la disparition du numerus clausus, il faut former des médecins. Ça prend une petite dizaine d'années. Pendant cette transition-là, je crois qu'il faut des mesures volontaristes en obligeant les médecins nouvellement formés à aller s'installer quelques années. Alors, bon, ça c'est à discuter, entre 2 et 5 ans peut-être, à un endroit déshérité, comme nos zones rurales, par exemple. Ça permettrait d'alléger déjà et d'assurer un petit peu la sécurité d'un bon nombre de citoyens.
SMIC, c'est quoi le bon niveau ?
Alors, la question du SMIC, alors, moi je ne sais pas vous dire quel est le bon niveau, je ne suis pas économiste, mais les autres mouvements, les autres partis proposent uniquement des mesures individualistes. Il y a, ça vient à l'idée de personne de proposer des idées un petit peu plus collectives. Sans doute que le SMIC, bien sûr, doit être revalorisé aujourd'hui, mais pour ce qui concerne, et ça c'est du domaine du privé, et les gens du privé qui sont pris à la gorge le font, on le voit bien dans le secteur de la restauration. Par contre, ce qui est du domaine de l'État, c'est les rémunérations et les salaires des agents publics. Qui ça, là-dessus, l'État peut intervenir. Aujourd'hui, que ce soit, surtout dans la fonction publique étatique et dans la fonction publique hospitalière, les niveaux de salaire sont excessivement bas, n'ont pas été revalorisés depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est là qu'il faut déjà intervenir, en termes d'État. Après, au niveau du privé, oui, on peut toujours donner un coup de pouce au SMIC qui peut poser quelques problèmes à des petites entreprises quand même.
Retraite, c'est quoi le bon âge de départ ?
Alors, la retraite, c'est un faux problème qui est posé par le gouvernement Macron. Sans doute que les conditions actuelles sont déjà assez drastiques et qu'il ne faut pas les aggraver. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas demander à des gens de travailler jusqu'à 65 ans avec 42 ou 43 annuités, ce qui est impossible à atteindre quasiment pour personne et qui envoie les gens vers la pauvreté, voire la précarité.
Mais comment on finance aussi le besoin d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses de l'État ?
Alors, pour ce qui concerne la retraite, les choses sont assez claires, puisqu'il y a un organisme officiel qui est le CORE, et qui a clairement écrit noir sur blanc que le financement des retraites n'était pas du tout impacté dans les 30 ans à venir. Donc, ce n'est pas un vrai problème. Aujourd'hui, la Macronie, ce qu'elle cherche à faire, c'est à essayer de trouver une voie de financement pour financer plutôt le quatrième âge et pas du tout la retraite. Donc il y a un mensonge quand même qui est organisé à ce niveau-là.
Pourquoi ne pas avoir... Allez-y.
Oui, et je pense que l'argent peut être pris ailleurs. Hein. Par exemple, une mesure fiscale, une loi fiscale qui pourrait être mise en place, c'est une loi, alors pour le coup, de type états-unien, c'est à savoir que un citoyen français, quel que soit l'endroit où il habite dans le monde, doit pouvoir être poursuivi par le fisc pour payer le différentiel d'impôt qu'il doit à l'État français.
Dernière question, pourquoi ne pas avoir fait d'accord avec la NUP ou la NUPES ?
Avec la NUPES. Alors, la première bonne raison, c'est que ces partis-là ne nous ont pas adressé la parole, comme ils ne l'ont quasiment pas fait déjà au régional l'année dernière. Donc, dans ces conditions, il est difficile d'avoir un accord électoral avec des gens qui vous ignorent. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal Recotillet. Vous êtes, je rappelle, donc candidat pour Oui la Provence, région et peuple solidaire sur la première circonscription des Alpes de Haute-Provence, des législatives qui, on le rappelle, hein, que vous pourrez suivre sur Alpe 1 ce dimanche soir dès 19h45 avec deux équipes qui seront dispatchées un peu partout dans les circonscriptions des Alpes du Sud. Les résultats, les analyses et les réactions des candidats, ce sera à suivre sur Alpe 1. Merci beaucoup, monsieur Recotillet.
Voilà, ben, grand merci à toutes et bonne journée.
Le dernier mot est pour vous, merci.